Croyants, ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes. On dit que les écrits restent, mais que les paroles s'envolent. Que nenni ! Et quand bien même, lorsque nos paroles s'envolent pour se poser sur votre cœur, nous sommes heureux de les avoir laissées s'envoler. Les mots s'envolent sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, un peu d'air. Les mots s'envolent et retournent sans cesse à leur lieu de naissance, le silence. Des paroles d'Arthur H. pour un album de Françoise Hardy, des paroles que nous faisons nôtres aujourd'hui. Car nous vous proposons une émission spéciale intitulée « La parole A ». Et nous vous en proposerons régulièrement sur des sujets que nous souhaitons traiter en plan large. Sans musique, juste un rythme, un souffle pour dire et pour raconter notre monde. Croyants, ensemble vers la paix, donne aujourd'hui la parole à Philippe Janssen.
RCF Côte d'Azur.
L'essentiel, tout près de chez vous, à Cannes, sur 96.8.
Philippe Janssen, bonjour.
Bonjour.
Philippe Janssen, vous êtes historien, spécialiste de l'Italie et de la Provence du Moyen-Âge. Mes informations sont bonnes?
Oui.
jusque-là, ça va. Vous avez un très beau parcours. Peut-être qu'on ne va pas faire tout le tour, sauf dire non, que vous êtes...
C'est pas le but de
l'émission. Non, mais sauf que bah, vous présentez tout de même, puisqu'on vous donne la parole, que vous êtes professeur d'histoire médiévale actuellement à l'Université de Nice.
Oui.
Voilà. Et spécialiste de l'Italie et de la Provence au Moyen-Âge, l'Italie particulièrement, ça va nous intéresser, puisque c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, nous vous invitons en qualité de membre de la communauté Sant'Egidio. Et c'est à ce voyage que nous aimerions, chers auditeurs, vous convier. Un voyage qui a commencé, alors, en 1968, par une réflexion sur la solitude de quelques lycéens en Italie. Ça paraît abstrait ce que je dis, mais c'est là qu'est née l'intuition de Sant'Egidio.
Oui, c'est en tout cas le point de vue que se plaît rappeler le fondateur de la communauté, Andrea Riccardi, qui est aujourd'hui ministre du gouvernement italien, ministre de la coopération internationale. Et il rappelle comment en 1968, avec quelques jeunes lycéens, ils voulaient changer le monde. C'était dans l'air du temps. Et ils s'étaient aperçus que la politique ne répondait pas à leurs attentes. Et donc ils ont voulu commencer à ouvrir l'évangile pour se dire que peut-être il y avait là un livre, une parole qui pourrait mieux les faire changer.
Bah c'est assez incroyable, hein, en plein mai 68, mai 68 a amené d'autres jeunes gens dans d'autres réflexions beaucoup moins profondes quand même.
Oui. Mais
c'est bien. C'est né comme ça.
André Riccardi et ses camarades avaient constaté que les voies que leur proposait l'époque ne les satisfaisaient pas tellement. Et puis, une fois qu'ils ont ouvert l'évangile et qu'ils ont commencé un peu à prier autour de la parole de Dieu, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne suffit pas de rester là à prier. Et alors, ils ont commencé à vouloir faire une œuvre de solidarité. Et ils sont allés dans les banlieues romanes, qui étaient à ce moment-là très déshéritées, et ils ont découvert, eux qui étaient des fils de la bonne bourgeoisie romaine, le spectacle des quartiers les plus pauvres de Rome, donc de la capitale. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à apprendre à vivre en amitié avec ces pauvres, avec ces personnes en difficulté, et à découvrir leur richesse d'être, leur diversité. Donc c'est ça le point de départ.
C'est un travail vers les pauvres et vers la paix.
Au départ, la communauté de Sant'Egidio est une œuvre de prière pour se rapprocher en tant que chrétien de l'inspiration de Dieu et une œuvre de solidarité, d'amitié avec les pauvres. Alors la paix, c'est venu dans un second temps. Et c'est venu parce qu'au fil des années, des décennies, la communauté s'est rapidement développée et aujourd'hui elle compte entre 45, plus de 60 000 membres dans le monde,
bien,
particulièrement en Afrique. Et donc, les amis de la communauté ont découvert aussi d'autres réalités de pauvreté, et en particulier en Afrique, ils ont découvert, comme le dit André Riccardi, que la guerre est mère, le plus souvent, des pauvretés. Et ils se sont aperçus, notamment au Mozambique, de la difficulté dans ce pays qui était en guerre depuis 16 ans, qu'affrontaient des populations. Et ils se sont dit qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas agir sur le plan médical, sur le plan de la solidarité, dans un climat de guerre. Qu'il fallait d'abord essayer de travailler pour la paix, c'est-à-dire d'arriver à faire dialoguer et à faire communiquer ensemble, sinon encore vivre ensemble, des personnes qui, la veille, continuaient à s'affronter. Et donc, pour cela, il fallait trouver un climat de confiance, de dialogue. Faire que des gens qui ne voulaient plus se parler, qui n'étaient plus capables que de s'affronter, puissent à nouveau se parler et s'écouter.
Donc là, on en arrive au dialogue interreligieux, d'une certaine manière, oui, de toute évidence.
Alors, ce que je veux dire, c'est que dans le cheminement de la communauté, c'est d'abord cette volonté d'établir la paix, de faire que les ennemis puissent de nouveau se parler les uns aux autres. Et parfois, simplement, d'être unis pour prier pour la paix, y compris dans la guerre. Donc c'est la notion de prier pour la paix qui est venue d'abord dans des contextes de vivre ensemble à l'intérieur d'une même religion. Et la dimension interreligieuse, elle est arrivée aussi par la conjonction de cette évolution interne de la communauté et l'initiative exceptionnelle du pape Jean-Paul II en novembre 1986.
Voilà, c'est ça. Là, on en arrive aux rencontres d'Assise. Bien sûr, un moment marquant s'il en est dans l'histoire de la foi chrétienne, bien entendu, avec des dignitaires de toute religion qui se sont réunis pour prier ensemble.
Je pense que c'est pas seulement important pour la foi chrétienne, je pense que c'est important bien pour sûr. Toutes les fois du monde. Et le cardinal Etchegaray, un grand prélat français qui était présent, qui était un des organisateurs de cette rencontre, en donne un excellent témoignage. On peut peut-être l'écouter.
Ça a été une journée vraiment historique. Ce qui m'a frappé aussi peut-être le plus dans cette journée-là, puisqu'on était pour prier, et comme tous, comme des enfants de Dieu. C'était une journée très grise, même. Il pluvinait le matin. Puis, à la fin de la matinée, brusquement, on a vu dans le ciel d'Assise un magnifique arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel a rappelé à tous ceux qui étaient là, le premier arc-en-ciel, celui dont parle la Bible, qui s'était montré... sur l'arche de Noé. Et alors tous là, nous nous sommes sentis vraiment des descendants de Noé, c'est-à-dire tous des descendants de ceux qui, avec qui Dieu avait établi une alliance. La première alliance biblique, c'est celle de Dieu avec Noé. Et là, nous étions tous, catholiques ou non, chrétiens ou non, venus de tous les horizons de l'humanité, du monde entier, nous sentis vraiment de la même famille, la famille du même Dieu.
C'est un beau témoignage. Hein?
Oui, tout à fait extraordinaire. Et cet esprit, se sentir unis dans une même famille à partir des différences, des traditions religieuses, est quelque chose de très important.
Bon, alors à ce moment-là, le pape a décidé de confier d'une certaine manière à cette communauté de San Egidio la charge, si on peut dire, le soin en tout cas, de faire vivre cet esprit d'Assise. De quelle manière ?
C'est-à-dire que le pape Jean-Paul II, qui avait des relations d'amitié personnelle très fortes avec Andrea Riccardi, lui-même présent d'ailleurs à Assise en octobre 1986, a demandé que ce soit la communauté qui continue à essayer de faire vivre cet esprit de prier pour la paix, les uns à côté des autres, comme avait dit le pape Jean-Paul II, non pas les uns contre les autres, pour prier ensemble.
Et c'est ce qui se fait depuis 25 ans.
Et ça se fait depuis 25 ans, dans une ville différente, chaque année, dans une ville différente, essentiellement d'Europe, mais il y a eu des rencontres, et ça dure 3 jours. On l'a fait à Palerme, on l'a fait à Lyon, on l'a fait dernièrement à Sarajevo, qui est aussi un lieu exceptionnel du vivre ensemble.
Vous nous direz un mot de Sarajevo juste après qu'on ait entendu les propos du cardinal Barbarin.
Justement, oui, cardinal sur Barbarin qui témoignait au cours des journées de prière de Lyon de l'enseignement qu'il en tirait.
J'ai compris que je devais prier pour des gens pour lesquels je n'ai encore jamais prié. Et pourtant, je croyais avoir un cœur catholique, c'est-à-dire universel. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas le cas et qu'il fallait changer tout de suite, sans hésiter.
Eh oui, il fallait changer tout de suite sans hésiter, hein, c'est important.
Il faut changer et entretenir parce que cette amitié se nourrit de ces retrouvailles chaque année.
Alors Sarajevo, vous nous dites un mot, c'était la plus récente.
C'était tout à fait exceptionnel, c'était en septembre dernier et on a été témoin dans l'accueil de cette ville qui était si traumatisée, qui a souffert des choses extraordinaires, enfin, très difficiles, dont le cardinal Etchegaray pouvait témoigner aussi, de cette capacité de vivre ensemble de toutes les religions. En moins de 500 mètres, on passe d'une synagogue à une mosquée, à une église orthodoxe, à une cathédrale catholique. Et tout cela se fait, semble retrouver la voie de l'harmonie et de la paix dans une ville qui a surmonté une grande partie de ses blessures.
J'avais dit pas de musique, j'avais pas dit pas de chant. Dans quelques jolies voix.
Vous avez c'est toujours... la chorale de Sant'Egidio à Rome.
Bon, très bien. Sant'Egidio, que vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus en détail en vous rendant sur le site www.sant'Egidio.org. Et quand je vous dis beaucoup plus en détail, je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup à découvrir. Alors, Sant'Egidio et le vivre ensemble à Cannes. Oui. Comment s'établit, si ce n'est que vous faites partie vous-même du comité de pilotage du Vivre Ensemble à Cannes, Philippe Janssen.
C'était un engagement qui paraissait tout à fait naturel pour moi, dans la mesure où la communauté essaie de vivre au quotidien, de manière humble, des réalités du vivre ensemble, comme par exemple le développement d'écoles de la paix, dans lesquelles on propose à des enfants de quartiers déshérités de pouvoir se parler, se connaître, se découvrir, là où ils ne sont d'habitude que dans des conflits, des chamailleries d'école.
Alors vous avez rencontré une jeune femme, Aurélie.
Oui, qui est une autre membre de la communauté de Sant'Egidio de Nice et qui a pu dire, voilà, je vous propose d'écouter ce qu'elle a ressenti d'avoir participé à la journée du 13 novembre 2011.
Non, on va d'abord lui demander son avis sur l'école de la paix.
Ah oui, d'accord.
On ne savait pas si on allait avoir le temps, mais on a le temps. Alors Aurélie, expliquez-nous donc votre expérience et votre témoignage sur l'école de la paix.
Le principe de l'école de la paix était d'accueillir des enfants, des quartiers sans distinction de culture et de religion. Nous l'avons fait pendant 3 ans à Nice, où nous les avons accueillis le mercredi après-midi pour de l'aide aux devoirs, des jeux autour de chansons et d'un goûter. Ce qui nous a permis de rencontrer des familles très différentes, de confessions différentes, où on constatait également que parfois il y avait des conflits dans les écoles, mais qui n'existaient pas à l'école de la paix, puisqu'on travaillait sur la différence de chacun, autour de jeux qui permettaient de mieux se connaître les uns les autres, que ce soit en termes de culture, en termes de pays d'origine ou de religion. Cela nous a permis aussi de faire se rencontrer des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer. Ainsi, à partir des enfants, on avait un contact avec les parents et parfois, avec les enfants, on voyait la diffusion de cet esprit d'amitié, de reconnaissance auprès des parents et de plus généralement du quartier.
Oui, alors on peut dire qu'Aurélie non seulement fait cette expérience de l'école de la paix, mais elle a également fait l'expérience du vivre ensemble à Cannes.
À Cannes, oui, dont elle a pu aussi apprécier cette capacité tout à fait extraordinaire de mettre ensemble des personnes, je reprends ce qu'a dit le cardinal Barbarin, Aurélie l'a dit aussi, des personnes qui n'ont pas l'habitude de se parler, d'arriver à se découvrir frères dans l'humanité, à partir de nos traditions respectives, en sachant s'écouter, se voir, s'entendre, créer des liens personnels profonds.
Bon, alors, on ne peut pas clore cette émission qui arrive déjà à son terme, Philippe Janssen. Vous voyez comment ça passe vite, hein, bien entendu, sans vous citer un extrait d'un discours d'Andrea Riccardi.
Oui, je crois que ça résume bien l'esprit dans lequel c'est un discours récent d'Andrea Riccardi. L'esprit d'assises, c'est l'image symbolique et réelle des religions, les uns à côté des autres, et non plus les uns contre les autres. Dans cette vision, on compose la multiplicité du monde, mais on propose d'être ensemble, en paix, non pas dans le métissage interreligieux cosmopolite, mais fondé sur les racines spirituelles de chacun. L'avenir, c'est la civilisation du vivre ensemble. En effet, conclut André Riccardi, dans ce monde global, il est évident que l'on ne peut pas vaincre, contrôler, exercer son hégémonie. La civilisation du vivre ensemble, c'est un rêve, mais un rêve très réaliste, capable de procurer un véritable bien-être à nos sociétés et à ceux qui viendront après.
Merci beaucoup Philippe Janssen. Je sais qu'on a survolé parce que les activités de la communauté Sant'Egidio sont absolument incroyables à travers le monde, en France bien entendu, tant à destination des pauvres, avec quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi sur le site, j'ai vu un grand engagement contre la peine de mort.
Aussi,
c'est un des éléments essentiels, aider, être très proche aussi de la personne en situation de handicap, proche des personnes qui sont en prison, enfin vraiment...
Et en Afrique aussi des programmes très de lutte contre le sida extrêmement actifs.
Bon, merci Philippe Janssen, merci à vous, www.santegidio.org. Merci à Carole Glassman, à José Garcia pour la réalisation. Retrouvez-nous et aimez-nous s'il vous plaît sur Facebook, Vivre Ensemble à Cannes. Et vous pourrez réécouter cette émission sur le site de RCF en podcast. La prochaine émission, c'est vendredi prochain. Promis, on sera là. Vous aussi, j'espère.